Donc, ce soir, après avoir fait un tableau, historique de l'histoire de la Bible, c'est pour vous faire saisir qu'il y a une tradition biblique qui est extrêmement attachée à ce qu'on appelle le monogénisme, c'est-à-dire la création de la nature humaine à partir d'un couple unique. Et ce monogénisme est dans un goulot d'étranglement à nouveau avec Noé et le Sem, Cam et Japhet qui sont les trois enfants de Noé. Donc, dans la tradition biblique et dans la tradition de l'Église catholique romaine, chez les orthodoxes, chez les musulmans et chez la plupart des protestants, on considère que cela est historique. Ensuite, à partir du 19e siècle, on le remet en cause et si vous voulez, c'est battu en brèche par de nombreux livres. Et actuellement, si vous voulez, on estime que ce n'est pas utile de le croire pour se sauver et mener une vie spirituelle. Toutefois, je devais vous le dire pour que vous puissiez aussi mettre en perspective tous ces mots qu'on entend comme sémites, israéliens. Déluge, tour de Babel, que vous compreniez que lorsque les Américains qui sont dans la défense de la religion extrêmement libre et extrêmement pugnace aux États-Unis, les objections qui ont été faites à une théorie de l'évolution avec seulement le hasard et les milliards d'années, c'est par exemple l'ADN commun dans toutes les races humaines, les mitochondries communes, c'est-à-dire ce sont des petits organismes dans la cellule qui transforment le sucre en énergie, hein, grosso modo, hein, franchement, il y a peut-être ça vous fait rire, non, non, mais il y a un scientifique dans la salle, non?
C'est l'oxygénation.
Voilà.
C'était il y a longtemps.
C'est la respiration.
Voilà, exactement. Et donc, elles sont identiques chez tous les êtres humains. Et c'est ce qu'on appelle les mitochondries d'Ève, puisqu'il n'y a que la femme qui donne le cytoplasme, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la cellule, et l'homme ne donne que son noyau. Donc, la cellule vient de la femme, et la moitié de l'ADN du noyau vient de l'homme, la moitié de la femme. Mais tout le reste vient de notre mère. Vous voyez, la membrane des cellules, le cytoplasme, les mitochondries, tout ça vient de la mère, par la force des choses. Et voilà. Quand ça se divise, Eh bien alors, qu'est-ce que ça nous apporte exactement? Le fait même qu'il y ait une nature qui a été voulue par Dieu et qui est une rencontre entre le monde des esprits et le monde animal. Ça, c'est vraiment important parce que le mariage est une réalité terrestre. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, actuellement, on manipule le vivant aussi facilement. Parce que c'est animal, si vous voulez, donc... la reproduction est tout à fait mécanique. Vous voyez, on prend les cellules, on va énucléer les cellules, on va prendre les ovules de la femme, la semence de l'homme, on met ça dans des tubes. Mais ce qui se passe dans le corps humain peut se passer mécaniquement ailleurs, seulement avec des périls de mort terribles. Vous voyez, la procréation médicalement assistée, c'est de nombreuses vies qui sont détruites. Parce que, si vous voulez, normalement, ils mettent 4 ovules. Donc, il faut déjà qu'ils extraient 4 ovules. Je crois qu'on en a, je ne sais plus, 200, 400, enfin, les femmes. Donc, il faut qu'ils les prennent, il faut qu'ils les ensemencent, et puis que ça marche, qu'il y en ait au moins 4 quatre vies qui soient parties, parce que, si vous voulez, nous avons tous été un ovule et le noyau qui va jusqu'au noyau de l'ovule. Donc, ce qui se passe dans le ventre de la femme, dans les trompes, ça se passe dans le tube. Seulement, vous voyez, qu'est-ce que vous dit la sagesse humaine, la philosophie humaine et la parole de l'Église, c'est que nous ne pouvons pas distinguer à quel moment c'est un être humain. Il y a eu des discussions philosophiques à travers les siècles pour savoir si le fait que ces deux cellules qui se rencontrent et se multiplient a déjà une âme humaine, ou si une âme humaine vient animer le corps uniquement lorsqu'il est un peu plus organisé. Est-ce que c'est une âme humaine qui préside à la multiplication de 2, 4, 8, 16, 32, tatatata, ou alors est-ce que c'est une âme animale, et qu'à un moment donné, il y a une âme rationnelle, une âme, un esprit qui est infusé dans ce qui était encore un amas de cellules, qui bouge pourtant et qui se divise, mais comme mécaniquement. Et donc cette discussion, elle a été tranchée dans le sens que, comme on ne sait pas, dès qu'on arrête ce processus vital humain, on tue quelqu'un. D'où l'Église qui vous demande de ne pas faire de procréation médicalement assistée, parce que toutes ces petites vies qui partent dans des tubes, les unes meurent dans le tube, et d'autres, on les implante, et ensuite, il y en a, si les quatre s'accrochent, s'il y en a un qui tombe, il tombe, mais que ça soit fait par l'homme, c'est terrible. Il y en a trois qui s'accrochent, ah ben nous on n'en veut qu'un, alors on fait une réduction embryonnaire. Donc on va au scalpel, et on va décrocher deux. Sur des trois, piqué, collégramme. Alors, pour ceux qui voudraient savoir s'il y en a un qui est malade sur les trois ou deux, celui qui est en meilleure santé, on les laisse grandir et on fait un prélèvement et on analyse l'ADN, on voit s'ils sont malades et on tue les deux autres en prenant celui qui est en meilleure santé. Donc, vous voyez, c'est la procréation médicalement assistée. Donc, que ça soit entre un homme et une femme, ou entre deux femmes, la question n'est même pas là pour la morale, si vous voulez. Et donc, cette vie qui est la nôtre, ce qui est le plus compliqué à saisir dans la foi et dans l'existence de Dieu, c'est cette extrême fragilité de notre vie. Vous voyez ? Lorsque la vie commence dans le corps de la femme, les médecins savent très bien qu'il y a certains petits enfants, tout petits embryons, qui n'arrivent pas à s'accrocher. Donc vous ne saurez même pas si vous avez été enceinte, parce que c'est tellement petit et ça ne s'accroche pas. Vous voyez, et on doit affronter ça en religion. Et oui, mais vous dites que Dieu est amour, vous dites que la nature est très bien faite, mais il y a des pertes d'enfants insensibles. Ensuite, une des plus grandes épreuves humaines, c'est quand l'enfant s'accroche, grandit, que les règles s'arrêtent, et que vous faites une fausse couche au bout de 5 semaines, 8 semaines, 2 mois, 3 mois. Vous voyez ? Et là, alors là, vous vous dites, mais comment Dieu peut-il me donner la vie et me la reprendre aussi vite ? Alors, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est chrétien, il faut savoir quelles sont les réponses de la foi chrétienne. Les réponses de la foi chrétienne, c'est que la maladie et la mort sont le lot commun de tous les êtres humains et que nous tenons tous les uns les autres. Et qu'il n'y a pas que les pécheurs qui sont malades et qui meurent, mais aussi les justes. Et que nous sommes tous dans le même bateau, tous dans la même histoire, et que ainsi, nous sommes tous devant le vertige de la vie, de l'importance de la vie, de la faiblesse de la vie, de la faiblesse du corps, et que la survivance de l'esprit qui anime le corps, de l'âme humaine, qui est différente des animaux et des plantes, c'est tout l'enjeu de la conscience, c'est tout l'enjeu des miracles et des preuves qu'il y a quelque chose après la mort, de l'apparition d'âme, on va appeler ça fantôme pour faire... mais c'est vrai, si vous voulez, il y a des revenants, il y a des âmes qui viennent et qui nous parlent. Et il y a suffisamment de faits pour que même des personnes très rationnelles et pas chrétiennes puissent se poser certaines questions. Et en soi, l'histoire chrétienne est remplie d'apparitions de saints, ou du Christ, ou de la Vierge Marie, à des personnes qui ensuite ont été attestées par des miracles ou par des signes. Mais, si vous voulez, aux yeux de quelqu'un qui... l'extérieur, Jésus, il a vécu il y a 2000 ans. La Vierge Marie, elle a vécu il y a 2000 ans. Donc si quelqu'un dit qu'il l'a vu en 1830 ou en 1973, c'est donc un mort ou une morte qui vient parler. Et donc tout ça nous interroge pour savoir quelle est notre nature humaine. Et que finalement, voyez-vous, lorsque... de nos jours, il y a un deuil, il y a une jeune femme qui meurt, on fait des marches blanches. Lorsque c'est un meurtre, lorsque c'est un drame. Mais l'être humain est frappé par la mort et un souvenir, une mémoire de ce drame qu'est la mort qui dépasse la mémoire animale. De la même façon, dans l'éducation des enfants, nous dépassons tout le règne animal. Nous passons des années et des années à nous occuper des enfants. Et même lorsque nous sommes autonomes et indépendants, nous continuons à avoir des relations avec nos parents, ce qui n'existe absolument pas dans le règne animal. On peut toujours vous dire qu'il y a des manchots empereurs qui se reconnaissent d'une année sur l'autre. C'est instinctif. Et si vous avez la femelle ou le mâle qui est mort pendant l'année, ben il s'accouple avec un autre sans faire un deuil et sans. Vous voyez, c'est l'être humain il faut absolument reconnaître en vérité que l'être humain est différent par rapport à l'amour dans le temps. Le réduire à un animal, c'est malhonnête, si vous voulez, c'est pas une réponse. On ne peut pas justifier de son intelligence, de son abstraction, de son amour à travers les années, de sa fidélité dans l'amour, en disant que c'est un animal développé, et que ça arrivera un jour ou l'autre à tel ou tel animal. Voyez. Comme par exemple le bonobo, qui est un des mammifères qui a la mémoire la plus phénoménale. On peut lui faire apprendre 500 tours. Le chien, c'est 10 à 20. Il a une très grande mémoire. Bon, si vous voulez, quand vous laissez le bonobo tranquille, il arrête de tartiner. Et vous arrivez avec la caméra, tout ça, pendant 2 ans vous avez appris à tartiner, vous arrivez avec la caméra, il tartine, il dit, c'est quand même merveilleux. Et puis, il s'est habitué à la personne qui l'a nourri pendant 5 ans, et après, on filme le moment où on lâche dans la forêt, et il est là, il se retourne, il court, et il se met dans les bras de la personne qui l'a nourri. Ben c'est, si vous voulez, c'est, comment dire, qu'on confonde de cela avec l'affection humaine, c'est malhonnête. Eh bien, toutefois, il faut répondre sur le fait que Dieu nous a mis dans une situation extrêmement belle et en même temps extrêmement fragile. La nature humaine est magnifique quand elle est en bonne santé. Moi, j'ai connu une dame justement qui avait une fille unique, qui a eu une rupture d'anévrisme à 21 ans. Mais si vous voulez, c'est comment elle va, quelle sera sa relation avec Dieu? Pourquoi tu m'as pris ma fille de 21 ans? Comme ça, elle se sentit mal une après-midi, elle s'est couchée et puis elle s'est jamais réveillée. Donc, il nous faut répondre à cela par le fait que nous avons un esprit immortel qui, quel que soit le temps qu'on a passé sur Terre, continue à vivre. Donc l'âme d'un petit enfant, ou l'âme d'un enfant de 2 jours, d'un jour, de quelques heures, qui meurt, ou l'âme d'un embryon qui meurt au bout de 5 semaines, 8 semaines, eh bien, c'est un pur esprit. Alors il faut vous imaginer les anges, avec leur connaissance, leur intelligence. Eh bien, si vous voulez, une âme humaine a en elle-même des très grandes capacités. Elle a en minimum, elle a les instincts animaux et elle a les connaissances humaines, la capacité spirituelle minimum, qui est d'emmagasiner les faits, les images et qui les juge spirituellement. Un enfant, un bébé peut développe une curiosité et des associations d'idées qui dépassent l'animal alors qu'il a quelques mois. Et on admire le rat qui sort d'un labyrinthe, mais un bébé, c'est absolument extraordinaire. Et pourquoi ? Parce que c'est une âme humaine. Donc, il est là, son corps se développe, mais sa curiosité est permanente, il teste tout, il teste tout avec cette intelligence humaine. On estime qu'à 3 ans, un enfant peut avoir l'âge de raison dans le sens où il peut mentir, où il peut cacher, où il peut faire quelque chose pour obtenir. Ça, à 3 ans, presque tous les enfants. Mais d'autres, plus tôt. Ce que l'animal ne concevra pas. Eh bien, cette âme qui nous permet ensuite de découvrir le réel, de découvrir les sciences, de découvrir les secrets de la nature, eh bien, à notre mort, elle paraît devant Dieu. Et vous me direz, mais alors, quelle est la destinée d'un enfant ou d'un enfant qui meurt au bout de 5 mois dans le ventre de sa mère? Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Si vous voulez, cette âme qui paraît devant Dieu, elle est, avec sa connaissance du réel qu'elle avait, et on estime justement qu'elles découvrent tout, parce qu'elles sont hors de leur corps, et le corps, lui, est notre seule manière de connaître, et qui nourrit notre fondation d'aimer le vrai et le bien, même le bien apparent. Voyez-vous, quand quelqu'un fait le mal, c'est parce que pour lui, temporairement, c'est un bien. Ça lui apporte du plaisir, ça lui apporte de la satisfaction. Et s'il sait que c'est un mal, c'est parce que c'est un mal à terme, mais pas tout de suite. Il sait qu'il va en souffrir plus tard, mais c'est pas maintenant. On agit toujours pour quelque chose qui nous fait plaisir, toujours. Et c'est à reculons qu'on fait quelque chose qui nous coûte et qui nous fait du mal. Et ça, c'est l'âme humaine, ça c'est l'esprit. Eh bien, lorsque une âme paraît devant Dieu, toutes les connaissances qu'elle a, elle les juge par rapport à cela. Et quand c'est un être innocent, eh bien, il découvre, il a son premier contact avec la puissance divine et l'être divin. Alors, le baptême des bébés, c'est de demander à Dieu que cette âme est une présence surnaturelle qu'on appelle la grâce dans son âme, qu'il éclaire avant même qu'il en soit conscient. Et quand quelqu'un n'est pas baptisé, quand un bébé n'est pas baptisé, on le recommande à cette lumière divine dans sa rencontre avec Dieu. Donc, si vous voulez, la foi en l'existence d'un être intelligent créateur, c'est forcément la foi en une rencontre au moment de la mort. Et c'est la raison pour laquelle dans toutes les religions du monde, en fait dans toute la nature humaine, la mort est quelque chose de très mystérieux, de très entretenu, ça fait partie véritablement d'une culture. Une maladie du monde occidental, c'est de chasser la mort. Alors, la manière dont on traite la mort de nos jours, ça va être tu es parti, mais tu restes dans notre souvenir. Et, ou alors, on va faire des gestes, on va avoir des photos. Mais on va pas forcément garder le corps. Certains vont garder le corps. D'autres vont dire, oh ben c'est ça, on va faire brûler le corps. De nos jours, les services funéraires ont compris qu'il fallait profiter du filon, et donc ça coûte aussi cher que d'en souvenir. Donc, la crémation va être à terme, peut-être abandonnée, si c'était pour des raisons financières, quand on nous proposait 700 euros au lieu de 2000, on va choisir le jardin du souvenir, vous voyez. Et pourquoi, à ce moment-là, l'Église demande d'éviter la crémation, mais par respect du corps et de la résurrection des morts. Vous allez me dire, mais pourtant le corps se décompose, le corps revient à la terre. Oui, mais c'est justement dans la loi naturelle. Le feu est une violence. D'ailleurs, le corps se contorsionne de manière, comme une feuille de papier lorsqu'il est brûlé. Alors, donc, notre nature, il faut l'assumer comme étant vraiment intégré à la création matérielle et au monde animal, et avec un esprit, une intelligence, une volonté comme les anges. Si on ne voit pas ça dans la nature humaine, on passe à côté de tout ce que les cultures ont essayé de comprendre de la vie humaine. Lorsqu'ils faisaient des rites funéraires, lorsqu'ils faisaient de l'art, lorsqu'ils faisaient des outils, des vêtements, quand ils apprêtaient leur nourriture, et qu'ils comprenaient qu'ils étaient différents des animaux. On peut toujours essayer de réduire la nature humaine à des animaux, mais ça sera toujours un certain mensonge, vous voyez. On a beau faire des heures et des heures de documentaires animaliers pour dire qu'ils sont intelligents, que cette araignée a choisi de faire telle toile plutôt qu'une autre, que les papillons le soir peignent leurs ailes comme ci ou comme ça, vous voyez, ou mettre telle forme, et puis que finalement il y a un ancêtre qui a choisi une forme d'aile tellement bien que finalement ils l'ont toute gardée. Si vous voulez, on prête aux animaux et aux insectes une intelligence qu'ils n'ont pas. Vous voyez, comme je vous disais, c'est l'hirondelle qui fait son nid, l'oisillon qui va naître dans le nid, qu'il n'a jamais vu faire, et adulte va le faire. Vous avez des nids d'ailleurs qui sont des véritables constructions avec des cheminées et une entrée. Aucun oisillon ne l'a appris, et puis adulte, il va faire un truc absolument incroyable avec des brindilles, des trucs. Et puis bon, l'hirondelle, j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est du torchis, vous voyez, donc faut le faire quand même, c'est pas mal. Surtout quand on l'a jamais appris. Oui. Mais j'aime bien prendre aussi, excusez-moi, les toiles d'araignée, parce que c'est des merveilles. C'est des constructions absolument incroyables. Eh bien, Dieu n'est pas seulement l'auteur de la nature. Dieu est auteur de l'amour, des sentiments et de l'affection. Et c'est bien plus important que la maladie et la mort. Et c'est pour ça que quand, si vous voulez, il y avait des siècles de très grandes foi religieuses, et qui coïncidaient d'ailleurs avec un manque de connaissances de médecine, de science, pour maintenir les enfants en vie ou les personnes en vie, eh bien, ce n'est pas parce qu'on mourait aussi souvent que les gens étaient aussi religieux. Ils étaient religieux, si vous voulez, on ne peut pas dire que c'est parce qu'on mourait jeune et enfant qu'on était religieux. Il y a un lien. Si vous voulez, qu'au bout d'un certain temps, on se dit, mais c'est pas qu'on meurt si souvent que on se pose la question de la mort. Parce que, de toute façon, quels que soient les progrès de la médecine et le transhumanisme, on pourra vraiment pas maintenir les gens au-delà de 120 ans, 150 ans, c'est pas... On vous fait rêver. Hein. C'est... Pour n'importe quel scientifique, c'est très bien que la connexion d'un appareil électrique ou d'un appareil électronique avec des nerfs humains, ça c'est du pipeau. Oui. Ça, il peut y avoir un petit influx électrique, mais bon, ça donnera jamais le système nerveux qui est d'une finesse et d'une incroyable. Donc, à terme, nous aurons encore la mort face à nous. Et alors, on aura beau la cacher, on aura beau l'anticiper, c'est-à-dire pratiquer l'euthanasie parce que on trouve qu'on est trop vieux. De toute façon, on sera face aux souvenirs de nos parents qui sont morts 80, 85 ans, 92 ans, ou le fait même qu'on ne peut pas non plus vivre tous jusqu'à cet âge-là et qu'il y a encore des enfants qui meurent, qu'il y a encore des jeunes qui meurent. Et donc, la question de la vie et de la mort, la question de l'amour humain, la question de la continuité, du souvenir de celui qui est mort, est intrinsèque à notre nature. Et c'est cette capacité de comprendre que l'amour et la vie spirituelle est que le corps et la vie corporelle et la vie terrestre est au service de cet amour, quelle que soit la durée de notre vie, qui est le cœur même de la religion, mais aussi le cœur même d'une saine philosophie. Et vous aviez des philosophes romains et grecs qui affirmaient très très clairement l'immortalité de l'âme, en disant mais c'est même pas possible de ne pas envisager que l'âme soit immortelle, étant donné la différence qu'il y a entre l'animal et nous. C'est des Cicérons qui vous disent si un de vos amis ne croit pas en l'immortalité de l'âme, dites-vous quand même qu'il n'est pas très spirituel. Comment cette amitié va perdurer? Alors de nos jours, puisqu'on a énormément attaqué la religion depuis 200 ans au moins, si vous voulez, on peut imaginer qu'il n'y a que l'amitié, qu'il y a l'amour terrestre et que la mémoire et le souvenir. Mais si vous voulez, c'est se tromper quelque part. Parce que comme je vous disais, vous voyez, un smartphone est l'œuvre d'une intelligence. Cette montre, vous voyez, est l'œuvre d'un être intelligent. Eh bien, une cellule de ma peau est un milliard fois plus compliquée que le système de cette montre. Et donc, ça ne peut pas venir du hasard. C'est trop compliqué, c'est parfait. Et alors, en même temps, cette perfection des lois naturelles, cette santé, cet œil qui est avec son l'humidité de l'œil, la réaction de l'iris, ce qui nappe le fond de l'œil, la rétine, enfin c'est le nerf optique, tout ça est conçu par par un ingénieur extraordinaire. Mais alors, pourquoi nous mourons? Pourquoi nous sommes malades? Eh bien, parce que, pour le péché originel, nous avons voulu nous couper de la source de la vie. Et deuxième raison, c'est que l'âme humaine et la puissance d'aimer se parfait dans l'épreuve, se parfait dans une histoire humaine, se parfait dans le temps, se parfait avec des événements, qu'ils soient heureux ou éprouvants. Et Dieu nous a créés pour vivre une vie avec plein d'événements. La vie humaine n'est pas faite pour être faite de moments que heureux. Oui. Elle est faite pour être remplie de vie, de moments. Voyez. Comme un sportif, il n'a pas l'intention de courir facilement. Il n'a pas l'intention de passer les épreuves du décathlon comme ça, sans souffrir, sans énergie, sans volonté. Au contraire, l'être humain, face à la difficulté, est heureux de la surmonter. On a vraiment intrinsèquement en nous l'envie de découvrir, l'envie de conquérir des connaissances, des expériences. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés. Par rapport à l'animal qui est dans l'instinct, vous avez des papillons qui sont des éphémères, ils sont larves, ils sont papillons uniquement pour se reproduire. Et ils vivent 24 heures. C'est pour nourrir, c'est pour dans un cycle de la vie animale, de la vie des insectes, pour se nourrir en permanence, pour qu'il y ait de la vie. Mais tandis que nous, du fait de notre esprit, Dieu nous a créés pour aller de connaissance en connaissance, d'expérience en expérience, et pour nous épanouir. Lorsque nous rencontrerons Dieu, ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que comme Dieu a une puissance infinie et une fantaisie infinie, mais une richesse infinie, nous irons, si vous voulez, d'expérience et de découverte en permanence, même après l'épreuve de la vie terrestre. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu réserve à ceux qu'il aime. Et la vie éternelle n'est pas une contemplation d'une lumière. Et nous, comme ça, en extase. Justement, voyez-vous, ça fait sourire de vous dire que la Vierge Marie vient sur Terre pour nous parler, mais la Vierge Marie, son âme est plongée en Dieu. Et alors que son âme est plongée en Dieu, elle parle à Bernadette, elle parle à François, Jacinthe de Fatima. Donc on peut être en Dieu et vivre et penser et avoir des relations avec ceux qui nous entourent. Donc cette vie en Dieu, qu'on appelle ciel parce que le mot ciel signifie ce qui est beau et lumineux, mais la vie en Dieu n'est pas en l'air. C'est une image, hein, le ciel. La vie en Dieu, c'est de vivre en Dieu, rencontrer Dieu. C'est pas parce que d'ailleurs le ciel de Paris la nuit, ben, il est noir. Donc c'était pas là le ciel. Okay. Ou alors Dieu est seulement là où il y a de la lumière. Et donc quand il se déplace, alors Dieu n'est plus là, quoi. Au-dessus des parties du monde qui sont dans l'obscurité, il y a plus de ciel, donc il y a plus de Dieu. Mais parce que Dieu est lumière, parce que Dieu est beauté, parce que Dieu est surtout un être, qui veut nous faire vivre sa vie. Et sa vie, vous allez me dire, oui, vous nous avez dit la dernière fois qu'il avait une pensée unique, donc il doit s'embêter, mais comme un rat mort, hein. Eh ben non, parce que sa pensée est la richesse même de toute pensée. Si vous voulez, donc, quand Dieu se pense, il est le seul à se comprendre. Et donc à comprendre tout ce qu'il peut faire. Vous, quand vous voyez des personnes différentes, des caractères différents, des tempéraments différents, tout ça, c'est du créer. Il n'y a pas seulement le corps, il y a l'âme. Donc Dieu est à l'origine des gens qui sont calmes, des gens qui sont nerveux, des gens qui sont plus joyeux que tristes, d'autres qui sont un peu mélancoliques, avec tous les milliards de degrés qu'il y a entre ces différentes âmes. Mais c'est lui qui est à l'origine de ça. Alors vous allez me dire, mais où est notre liberté? Elle coopère à notre être créé. C'est-à-dire que ce qui est merveilleux dans l'être humain, c'est que nous sommes les créatures qui coopérons avec notre futur. D'où notre responsabilité, par contre. On est responsable de notre futur parce qu'on y coopère de manière nécessaire. C'est ce qu'on appelle la liberté. Mais la vraie liberté, c'est de faire le bien, c'est pas de faire le mal. Et ça, voyez-vous, Dieu a pris un risque extraordinaire à créer des êtres libres. Mais il l'assume complètement, parce que le retour que font des êtres libres de son amour est lui-même libre. Donc il a plus de valeur que, si vous voulez, que le chant des oiseaux. Les oiseaux, ils sont tout contents. Et Dieu est heureux de voir des oiseaux siffler, mais par rapport à un être humain, voyez-vous, qui répond à son amour et qui aime les autres, c'est une plus grande gloire pour Dieu.